Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue évidemment. Nous allons faire notre petite promenade donc en littérature périgordine. Alors j'ai sous les yeux pour cela une petite anthologie des littératures occitanes et catalanes. Alors, bien sûr, ce sont les littératures occitanes qui nous intéressent. Et ce petit ouvrage qui a 200 pages est placé sous la direction de Christian Ny qui en 2006, donc date de la parution de ce volume, était recteur de l'Académie de Montpellier et chancelier des universités. Alors donc, comme je viens de le dire, ce livre a été publié en 2006 par le CRDP de l'Académie de Montpellier et sous une maquette d'Agathe Razia-Zec. Voilà. Alors, la quatrième de couverture nous dit que cet ouvrage présente 64 textes littéraires écrits en occitan et en catalan, du Moyen-Âge à nos jours, accompagnés de leur traduction en français. Alors, bien sûr, c'est la traduction en français que je vais vous donner. 1000 ans de littérature sont ainsi évoqués à partir du socle commun des deux langues, les troubadours. La littérature occitane et catalane sont ensuite illustrées par quelques belles pages de grands écrivains. Alors, en photo de couverture, il y a une très belle photo de Georges Souche, qui est un arbre de Judée, dans le vignoble de Saint-Chinian. C'est assez curieux. Voilà, donc cet ouvrage, il y a un avant-propos, comme on va voir, une préface également, et puis les écrits des troubadours du 12e au 13e siècle, la littérature occitane du 13e au 21e siècle, et la littérature catalane du 13e au 21e siècle. Alors, pour l'avant-propos, donc qui est signé Christian Ny, voici ce qu'il nous dit au début. Les langues de France ont toute leur littérature, ensemble celles-ci forment la littérature de France, une des plus belles et les plus puissantes du monde. La langue occitane et la langue catalane sont superbement contribuées à la littérature de France et elles continuent d'y contribuer. Les élèves de l'Académie de Montpellier qui vivent sur un territoire occitan ou catalan doivent le savoir. On n'est pas vraiment cultivé quand on ignore les éléments majeurs du patrimoine légué par ceux qui nous ont procédé et d'une création littéraire qui continue à l'enrichir. Il termine ainsi. J'espère que les textes ainsi réunis rempliront leur objectif qui est de toucher le cœur, l'imaginaire et la raison de leurs lecteurs et qu'ils démontrent la vigueur de l'occitan et du catalan. Alors bien sûr, il y a une préface. Alors la préface, elle est signée de Robert Laffont. Alors voilà ce qu'il nous dit. Vers le 10e siècle de notre ère, la croûte du latin écrit se craquelle et laisse passer des traces de langues nouvelles, des langues romanes. Autour de 1100, c'est une langue d'oc que se produit une véritable explosion littéraire que personne ne semblait attendre. D'un côté, une poésie héroïque et guerrière née de la vie des saints, chanter et danser que l'univers monastique avait élaboré. Ce sera la chanson de geste dont l'immense vogue recouvrira l'Europe. Il paraît aujourd'hui prouvé que le premier état de la plus célèbre dentelle, la chanson de Roland, a été écrit en Languedoc entre Rouergue et Navarre. Cette langue va servir à l'aristocratie laïque et même ecclésiastique pour des actes juridiques. Voilà, c'est-à-dire que les actes juridiques ont été écrits en latin, et ensuite, ils seront écrits en occitan, où s'ils continuent à être écrits en latin, il y aura toujours une version occitane. Alors donc, cette préface se termine ainsi. Le présent recueil de textes voulu par le recteur de l'Académie de Montpellier peut apprendre aux jeunes catalans et occitans qui possèdent, sous le silence qui a été fait jusqu'ici de leur langue, l'un des héritages culturels à l'origine des plus prestigieux qui soit réanimé par 7 siècles d'une écriture jamais absente et par une vie contemporaine. Voilà, alors, bien sûr, alors, chapitre 1er, c'est écrit des troubadours, 12e et 13e siècle, le plus ancien de tous, qui est également un des plus connus, c'est Guillaume IX, autrement dit, Guillaume en français, c'est le 7e comte de Poitiers et 9e duc d'Aquitaine. Donc, nous sommes très concernés, il vit de 1071 à 1126, c'est un grand seigneur poète, premier troubadour connu. Une dizaine de chansons lui sont attribuées dans des registres très différents. Oui, il y a certains que je ne donnerai pas à l'antenne. Voilà. Alors cette chanson de facture classique est un hymne à la joie, ou plutôt aux joies, notion complexe de la lyrique des troubadours, dont c'est ici, dit Pierre Bec, la première apparition indiscutable. Le joie est à la fois l'état d'exclamation amoureuse qui illumine le monde et le désir physique de la dame. Celle-ci incarne le joie et détient des pouvoirs magiques. Elle est appelée Midonia, au masculin Monseigneur, le service d'amour prenant pour modèle le service chevaleresque. Les strophes de 7e et 8e fixent les règles du comportement courtois pour l'adepte du fin amour, autrement dit de l'amour raffiné. Alors voici donc Guillaume IX, voilà donc son poème, donc la version française, La joie. Plein d'allégresse, je me prends à aimer une joie dont je veux jouir davantage, et puisque je veux revenir à la joie, je devrais, si je le puis, aller vers ce qu'il y a de mieux, car ce mieux, sans présomption, m'honore plus que tout ce que l'on pourrait voir ou entendre. Moi, vous le savez, je n'ai pas coutume de me vanter, ni de m'attribuer de grandes louanges, mais si jamais une joie peut fleurir, celle-ci doit porter graines plus que toutes, et resplendir au-dessus des autres, comme quand s'éclaire un jour sombre. Jamais personne ne put se figurer un tel corps, ni en vouloir, ni en désir, ni en pensée, ni par imagination. Une telle joie ne peut trouver son égal, et celui qui voudrait la louer comme il sied ne pourrait y parvenir de tout un an. Toute joie doit s'illuminer devant celle-là, et tout autre amour rendre hommage à madame pour son aimable accueil et son gracieux et plaisant regard. Et il vivra encore 100 ans celui qui réussira à posséder la joie de son amour. Grâce à la joie qui émane d'elle, le malade peut guérir, et par sa colère, elle peut tuer le plus sain. Le plus sage peut devenir fou, le plus beau perdre sa beauté, et le plus courtois devenir vilain, et le vilain courtois. Alors, puisqu'il en est... Il n'en est pas de plus noble qu'on puisse trouver, ni que les yeux puissent voir, ni la bouche nommée, je veux la garder pour moi seul, pour me rafraîchir le cœur et renouveler ma chair, si bien qu'elle ne puisse vieillir. Si madame veut bien me donner son amour, je suis prêt à l'accepter et lui en savoir gré, à être discret et à la servir, et parler et agir selon son plaisir, et porter haut son mérite, et chanter bien haut ses louanges. Je n'ose lui avouer le message par autrui, car je crains qu'elle ne s'irrite aussitôt, ni moi-même, tant j'ai peur de faillir. Je n'ose lui déclarer ouvertement mon amour, et c'est elle qui doit choisir ce qu'il y a de mieux pour moi, car elle sait que près d'elle, je dois guérir. Alors voilà, donc c'était La joie de Guillaume IX de Poitiers, duc d'Aquitaine. Bon, alors il n'était pas si bon que ça, hein, mais on en reparlera certainement un jour. Alors, il y a bien sûr d'autres poètes, et parmi ces poètes, il y a Geoffrey Rudel. Geoffrey Rudel est de Blaye, était seigneur de Blaye, mais sa famille, je crois, était proche du Bergeracois. Donc on va le citer. Et il a écrit L'amour lointain, et voilà. Alors Geoffrey Rudel, prince de Bial, de Blaye, pardon, est lui aussi un grand seigneur poète. Il suivit en 1147 le comte de Toulouse, Alphonse Jourdain, à la croisade, et il est probable qu'il n'en revienne pas. Mais l'amour mystérieux qu'il éprouva pour la comtesse de Tripoli, alors fief des comtes de Toulouse, relève de la légende et de la littérature européenne et en fait le mythe de l'amour inaccessible. Le texte de sa vie, Une villa, est un récit plus ou moins biographique qui précède dans les manuscrits les chansons d'un amour raconté, qui raconte l'histoire d'un amour né de petits. Le récit pèlerin pour lequel Geoffrey se croise et traverse sa mer, mais il tombe malade, et quand il débarque mourant à Tripoli, on le porte dans une auberge où la comtesse va le retrouver. L'espace d'un instant, elle retient la vie qu'il perdra dans ses bras. Voilà. Alors moi, je suis allé à Tripoli il y a quelques années pour un colloque, et on a visité ce fameux château, donc des princes, des comtes de Toulouse. Voilà, bon, il n'y a pas de plaque qui rappelle l'exploit de Geoffrey Rudel, mais on en a parlé quand même, voilà. Alors, ça, c'est un tout petit souvenir. Alors, donc, voilà, donc il a écrit L'amour lointain. Lorsque les jours sont longs en mai, il me plaît le doux chant d'oiseaux lointains Et quand je suis parti de là-bas, il me souvient d'un amour lointain, de désir je vais morne et courbé, si bien que champ ni fleur d'aubépine ne me plaisent plus que l'hiver gelé. Je tiens pour vrai le Seigneur qui a formé cet amour lointain pour un bien que j'en reçois. J'ai deux mots, car il est si loin de moi, hélas, que je ne suis, je pèlerin là-bas pour que mon bourdon et mon esclavine. Alors une esclavine, petite précision, c'est une sorte de manteau à capuchon, voilà, que portaient les pèlerins de l'époque et qui protégeaient du soleil et un peu de la pluie. Alors donc je reprends pour que mon bourdon et mon esclavine soient de ses beaux yeux contemplés. Quelle joie j'aurai quand je lui demanderai, pour l'amour de Dieu, d'héberger l'hôte lointain. Et s'il lui plaît, je logerai près d'elle. Pour loin que j'en sois maintenant, quel charmant entretien alors quand l'amant lointain sera si près d'elle qu'il pourra jouir de ses doux propos. Triste et joyeux, je m'en irai si jamais je le vois, cet amour lointain, mais je ne sais quand je le verrai, car nos terres sont si loin. Effectivement, entre la Palestine et Bergerac, et Oublaï, il y a quand même une petite distance. Il y a bien des cols et des chemins, et pour cela, je ne suis devin, mais tout soit comme il plaît à Dieu, jamais l'amour je ne jouirai, car cet amour lointain, je ne jouis, car meilleur ni plus plaisant je ne connais nulle part ni loin. Sa valeur est si vraie et si grande que je voudrais là-bas, au pays des Sarrasins, pour elle être pris comme esclave. Que Dieu qui a fait tout ce qui va et vient et forma cet amour de loin me donne le pouvoir, car le désir je l'ai d'aller voir cet amour lointain réellement en tel lieu, que la chambre et le jardin me semblent un palais à jamais. Livré celui qui m'appelle gourmand et désireux d'amour lointain, car nulle autre joie ne me plaît que de jouir de l'amour lointain, mais ce que je veux m'est refusé, car mon parrain m'a voué à aimer sans être aimé. Mais ce que je veux m'est refusé, maudit soit le parrain qui m'a voué à ne pas être aimé. Voilà. Alors, donc c'était l'amour lointain de Geoffrey Rudel. Alors, il y a quelques voisins aussi, du Périgord, comme par exemple Bertrand de Ventadour. Alors, Bertrand de Ventadour, et il est né en 1147 et il décède en 1170. Alors sa vie le présente comme le fils de serviteur du château de Ventadour en Limousin. N'avait de fief qu'en poésie, on dira de lui, mais il est le maître du trouba, c'est-à-dire des chansons. Cette chanson, présente dans 23 manuscrits, dont la mélodie est conservée, est sans doute la plus célèbre de toutes, la lyrique occitane. Dante se souvient d'elle dans son paradis, du désir d'oubli exastique dans le vol au désir de mort, le chant de l'amour perdu coule avec une limpidité qui est le comble de l'art. Alors, il a écrit sa chanson le plus connue, c'est l'Alouette. Alors, je vous en donnais le début. Quand je vois l'Alouette de joie agiter ses ailes contre le rayon du soleil, qui s'oublie et se laisse tomber à cause de la douceur qui pénètre son cœur, ah, comme je l'envie. Tout ce que je vois joyeux et je trouve extraordinaire qu'aussitôt mon cœur ne fonde point de désir. Hélas, je croyais tant en savoir, en amour, et j'en sais si peu, je ne puis m'empêcher d'aimer celle qui ne me secourra jamais. Elle m'a enlevé mon cœur, elle m'a enlevé moi-même, ainsi qu'elle-même et le monde entier, et quand c'est enlevé à moi, elle ne m'a rien laissé que désir et cœur ardent. Je n'ai plus été maître de moi et je ne me suis plus appartenu à partir du moment où elle m'a laissé regarder dans ses yeux ce miroir qui m'enchante, un miroir en prêtre me regarder en toi. J'ai été tué par les soupirs profonds car je me suis perdu et comme s'est perdu le beau Narcisse dans la source. Voilà. Ben écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Ben, on reprendra un peu cette petite anthologie de littérature occitane et catalane, ben ma foi, la semaine prochaine. Donc bonne journée et attention au soleil. Au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.